Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Établi dans la foi en cette doctrine jusqu'à ce que nous soyons indubitablement persuadés que Dieu en est l'auteur. Étant par conséquent illuminés par lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous ne croyons plus sur la base de notre jugement ou celui d'autres personnes que l'Écriture vient de Dieu, mais d'une manière qui surpasse le jugement humain. Nous sommes pleinement assurés qu'elle nous est parvenue au moyen du ministère des hommes, de la bouche même de Dieu. Nous ressentons cette plus ferme conviction que nous tenons. Nous ressentons cette plus ferme conviction que nous tenons une vérité invincible, ceci par le Saint-Esprit. Eh bien, Calvin a vu juste. Nous ne sommes pas surpris, n'est-ce pas? William Niesel a déclaré que Calvin considère la parole de la Bible comme quelque chose de mort et d'inefficace pour nous, à moins d'être vivifié par Dieu, à moins qu'elle ne reçoive la vie de Dieu. Ainsi, aussitôt qu'elle est séparée de lui, c'est-à-dire de Christ, elle devient un cadavre de l'être sans âme. Il a compris qu'on ne croit en l'Écriture que si le Saint-Esprit nous a fait le don de cette foi et de cette confiance. Une confiance ferme dans la parole de Dieu et l'Écriture ne résulte donc pas d'arguments rationnels ou de l'œuvre de l'intellect, de la raison et des émotions humaines. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Calvin dit encore, « Tout comme Dieu est un... » Calvin dit encore, « Tout comme Dieu est un témoin suffisant de lui-même dans sa propre parole, ainsi, la parole ne prendra jamais de crédit dans les cœurs des hommes à moins d'être scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il est donc nécessaire que le même Esprit qui a parlé par la bouche des prophètes pénètre nos cœurs pour nous convaincre qu'ils, c'est-à-dire les prophètes, ont fidèlement transmis ce qui leur avait été divinement confié. Ainsi, il dit, que cela reste donc une vérité immuable, que ceux que l'Esprit enseigne de l'intérieur acceptent fermement les Écritures. Notre confiance en la parole de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. C'est une composante du don souverain de la régénération. L'approche traditionnelle a consisté à essayer de prouver la véracité de la Bible à des personnes non régénérées, en amassant tout genre de preuves qu'elles peuvent traiter à travers leur intelligence déchue, dans la futilité de leur fonction mentale et l'ignorance qui est en elles, et les ténèbres de leur pensée et la dureté de leur cœur, et l'insensibilité et la sensualité de leur âme. Nous pouvons rassembler toutes les preuves prophétiques, les preuves scientifiques, les évidences miraculeuses, les preuves historiques et archéologiques, les évidences des vies transformées. En fin de compte, et bien qu'assurément tout cela soit une représentation raisonnable et vraie de l'Écriture, ces preuves ne peuvent pas ôter les écailles des yeux aveuglés. Elles ne peuvent pas donner la vie à une âme morte. L'Écriture nous dit comment cela fonctionne dans l'un des grands passages des Écritures. Ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Il y a beaucoup trop de choses ici pour que je puisse les ressortir dans un unique message. Et puisque je ne serai pas là pour vous les dire en deux messages, je vais vous en donner la version condensée. Je ferai mieux de couvrir un verset sans parler des deux chapitres ou des portions des deux chapitres. Comme si quelqu'un avait entendu Dieu les prononcer. Je voudrais cependant que vous regardiez au début du chapitre 1 au verset 18. Je voudrais cependant que vous regardiez au début du chapitre 1 Je voudrais cependant que vous regardiez, au début du chapitre 1, au verset 18, en descendant, et à travers tout le chapitre 2. Et nous allons effleurer ces vérités tout en gardant le flot de pensée et le point principal. Le thème de la section qui commence au chapitre 1 et au verset 18 et qui va jusqu'à la fin du chapitre 2 est la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Le mot « sage » ou « sagesse » apparaît environ 20 fois, en contraste. Le mot « sage » ou « sagesse » apparaît environ 20 fois, en contraste. Le mot « sage » ou « sagesse » apparaît environ 20 fois, en contraste avec « folie » qui apparaît. Le mot « sagesse » Le mot « sage » ou « sagesse » apparaît environ 20 fois, en contraste avec « folie » qui apparaît environ une demi-douzaine de fois. Il s'agit de la sagesse divine. Et toute la section explique pourquoi les gens rejettent la sagesse de Dieu, quand tandis que d'autres... Et toute la section explique pourquoi certains rejettent les Écritures. Et toute la section explique pourquoi les gens rejettent la sagesse de Dieu, tandis que d'autres l'acceptent. Pourquoi les gens rejettent les Écritures, l'Évangile, la croix, tandis que d'autres... Tandis que d'autres personnes acceptent les Écritures, l'Évangile et la croix. En fait, il y a certaines expressions ici. La sagesse de Dieu, la parole de la croix, et même le témoignage de Dieu. Mais que vous parliez de la sagesse de Dieu, de la parole de la croix ou du témoignage de Dieu, vous faites allusion à la révélation divine qui est mise par écrit. C'est cela le thème. À présent, une manière simple d'écarter cela consiste à le diviser en deux sections. À présent, une manière simple d'éclater cela consiste... qui se chevauchent et à recycler et reformuler les choses. Quoi qu'il soit cependant, deux sections sont en quelque sorte identifiables. Section numéro 1. Pourquoi les non-croyants rejettent la Bible? Section numéro 2. Pourquoi les chrétiens acceptent la Bible? Pourquoi les non-croyants rejettent la Bible et pourquoi les chrétiens acceptent la Bible? Et je vous dirai dès le départ que rien n'est dit au sujet des évidences. Rien n'est dit au sujet du raisonnement humain. Rien n'est dit sur la manière de manipuler la volonté des gens ou de toucher leurs émotions. Il n'est pas question de preuves ici. Il ne s'agit pas des émotions. C'est la condition qui est en cause. Il s'agit de l'état de non-chrétiens et de l'état de chrétiens. Voyons tout d'abord pourquoi les non-chrétiens ne croient pas en la Bible. Et je vous donnerai 5 raisons, qui sont énoncées pour nous dans la section d'ouverture. Tout d'abord, le message est déraisonnable. La première raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire, ce n'est pas raisonnable. C'est la première raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire. Ce n'est pas raisonnable. Au verset 18. En effet, le message de la croix, ou encore le témoignage de Dieu, ou la parole de la sagesse de Dieu, c'est pour signifier la révélation de Dieu mise par écrit. C'est la première raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire. Cela n'est pas raisonnable. Au verset 18, il est écrit « En effet, le message de la croix, ou encore, si vous voulez, le témoignage de Dieu, ou la parole de la sagesse de Dieu, c'est pour signifier la révélation de Dieu mise par écrit. » est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire leur condition. C'est une folie. D'une manière quelque peu sarcastique, cette idée est répétée au verset 21. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Le verset 23 dit aux non-juifs. C'est une folie. Et ensuite, d'une autre manière sarcastique, au verset 25. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et donc, clairement, il y a cette idée que la révélation de Dieu dans les Écritures est folie. La parole est une imbécilité. La parole est une imbécilité. Elle est débile, stupide, futile, inadaptée à la raison humaine. ils traitent la parole de Dieu avec mépris et dédain. Et je n'irai pas dans tous les détails relatifs à ce sujet. Cependant, un Dieu crucifié était ridicule pour les païens, et également, sinon davantage, ridicule pour les juifs. Le salut, au moyen de la foi, en un Dieu crucifié, était encore plus ridicule. Toute l'affaire était franchement déraisonnable. Deuxièmement, les non-chrétiens ne croient pas à la Bible, non seulement parce que le message est déraisonnable, mais également parce que la réalité est inaccessible. Vous avez entendu à plusieurs reprises au cours des baptêmes ce soir des personnes dire « Je savais que Jésus était mort, mais je ne pouvais pas faire le lien et dire pourquoi ou comment se laver en quoi ?» Je savais que Jésus était mort, mais je ne pouvais pas faire le lien et dire pourquoi ou comment cela avait quoi que ce soit à voir avec ma vie. Ou bien, avez-vous entendu quelqu'un dire « J'ai grandi à l'église et j'avais toutes ces histoires déconnectées dans mon esprit. Je ne savais pas comment relier tout cela. » Et c'est essentiellement cela l'idée ici. Cela n'a tout simplement pas de sens pour ceux qui périssent. Au verset 19, il est écrit. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages. » Verset 19, je le lis. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Ceci pour dire que Dieu a fait les choses de cette manière. Au moment de la chute, Dieu a placé la race humaine dans un état qui fait qu'il est impossible, par les moyens de la sagesse humaine, de parvenir à connaître Dieu. Vous ne pouvez pas y arriver de vous-même. Et Dieu l'a conçu ainsi. « Je ferai disparaître la sagesse des sages, dit-il, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Je retournerai la sagesse de ce monde en direction de la folie. Je le ferai parce que cela me plaît, afin qu'aucun homme, aussi rempli puisse-t-il être de la sagesse de ce monde, ne puisse à travers cette sagesse humaine parvenir à me connaître. » Au verset 19, il cite Ésaïe 29, verset 14, à partir de la Septante, l'édition grecque. Ésaïe avait dit, à ce moment-là, Ésaïe 29, que lorsque Sennacherib menaçait Juda, menaçant d'attaquer, de saccager et de piller Juda, Ésaïe a dit, « La délivrance viendra de Dieu, mais elle ne viendra pas à travers la sagesse des dirigeants. Elle ne passera pas par la sagesse des sages. Leur trahison secrète, empreinte de ruse, qui a été portée contre Juda, périra, non pas par l'ingéniosité humaine, mais à cause de la puissance de Dieu. » Dieu allait intervenir et délivrer son peuple. La sagesse des sages ne pouvait pas les sauver. L'intelligence des intelligents ne pouvait pas faire l'affaire. Seul Dieu pouvait le faire. Et comme pour dire, où est le sage quand on a besoin de lui? Où est le scribe? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Alignez-les tous, alignez-les, les lettrés, l'élite, les intellectuels, les philosophes. Et, à propos, le verset 20 fait allusion aussi bien à Ésaïe 19-12 qu'à Ésaïe 33-18. Et les supposés sages conseillers d'Égypte qui ont été changés en de parfaits idiots au 19e chapitre d'Ésaïe. Et puis les scribes des Assyriens qui étaient tout prêts à enregistrer le record du butin qu'ils allaient obtenir en venant et, tout à coup, ils sont tous apparus comme des fous parce que le Seigneur était intervenu. Où sont ceux qui doutent, les discuteurs? Où sont ceux qui doutent, les discuteurs et les harangueurs? Ils sont des débatteurs philosophiques. Où sont les débatteurs philosophiques? Alignez-les tous. Alignez-les tous. Et il plaît à Dieu qu'à travers tout leur intellect et toute leur sagesse et toute leur érudition, ils soient incapables de le connaître. Dans sa sagesse, Dieu a fait qu'il soit possible pour les hommes et les femmes de parvenir à le connaître par leurs propres efforts. Vous ne pouvez pas aller jusqu'ici. Vous ne pouvez pas aller d'ici jusque-là sans être aidé. Vous ne pouvez pas parvenir à la confiance en la parole de Dieu, à la foi au message ou à la parole de la croix, la parole du témoignage divin. Ainsi, Les gens ne croient pas parce que c'est une folie, c'est déraisonnable, parce que c'est inaccessible. Troisièmement, parce que c'est franchement incroyable, ou je suppose que vous pourriez dire ridicule. Verset 22. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Les Juifs recherchaient des signes. Vous dites, attendez un moment, Jésus leur a donné des signes, des signes, des signes et des signes. Oui, mais ils voulaient le grand signe. Renverser les Romains, établir le royaume de Dieu, régner dans l'accomplissement de l'alliance abrahamique et davidique. Et quand il a commencé à parler de sa mort, il est allé sur la croix et c'en était terminé. La crucifixion a échu au Seigneur Jésus parce qu'il a condamné leur religion hypocrite, parce qu'il n'a pas démontré sa puissance contre les Romains pour accomplir le scénario messianique qu'ils avaient imaginé. Et même sur la croix, ils ont dit « Pourquoi ne descends-tu pas de la croix ? Pourquoi ne descends-tu pas de la croix ?» Il y avait peut-être un dernier espoir qu'il accomplisse le signe miraculeux qu'ils recherchaient. Mais la crucifixion de Dieu, la crucifixion du Messie par les Romains, impensable. D'un autre côté, les Grecs, ils recherchaient la sagesse. Et qu'est-ce que cela signifie? Ils recherchaient des philosophies imbriquées, compliquées, profondes, complexes. Constitués de mots fantaisistes et de concepts ésotériques. Ils se sont moqués de la simplicité de l'Évangile et l'incroyable idée qu'un Dieu crucifié doit être adoré. C'est pour cette raison qu'il y a encore aujourd'hui à Rome une pierre qui montre un homme qui se prosterne devant un âne. C'est le reflet d'une vision ancienne de la chrétienté qui dit « Alexaménos vénère son Dieu ». Et la chose intéressante à ce sujet, c'est que l'âne est sur la croix. Qui adorerait un âne sur la croix? C'est franchement inconcevable. Quatrièmement, ces gens sont quelconques. Son peuple n'a rien de particulier. Les Juifs recherchaient un signe. Les Grecs voulaient la sagesse. Paul a prêché Christ crucifié. Les Juifs ont trébuché dessus. Les païens ont dit que c'était une folie. Le verset 26 n'aide pas. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. La question de fond ici, c'est que nous ne sommes pas très impressionnants. Ils ne l'étaient pas à l'époque et nous ne le sommes pas non plus. La plupart des chrétiens ont toujours été quelconques. Ce qui rend impressionnant, aux yeux du monde, leur a toujours fait défaut. En particulier dans le cercle de l'élite, qui nous traite avec mépris. Nous ne sommes pas les plus intelligents et nous ne sommes pas les plus nobles. En fait, au verset 27, il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien. Il ne cesse d'aller plus bas et plus bas et plus bas. Il n'a pas choisi les sages, il n'a pas choisi les nobles, pas les sages, pas l'élite intellectuelle, pas les puissants, pas les grands, pas les personnes influentes, pas celles qui font bouger les choses, pas les agitateurs, les puissants, pas les nobles. Il s'agit en fait d'un mot grec qui signifie bien-né, de naissance noble, socialement classé. Mais il a choisi les choses folles, faibles, basiques, à jeunesse, de naissance obscure, des nullités, des sans-noms, des monsieur tout le monde, des insignifiants et les méprisés. Puis, ça descend et ça continue d'aller même plus bas que cela. Les choses qui ne sont rien. Le participe présent de « Emi » est non-existant. Il a choisi. Cela, justement, cette dernière affirmation que Paul utilise. Les choses qui ne sont rien. Au verset 28, et c'est l'expression la plus méprisable de la langue grecque pour rabaisser un individu, pour le traiter comme s'il n'existait pas. Donc, ils ne croient pas. Et le fait que nous soyons un groupe si banal augmente leur résistance. Et ensuite le cinquième point. Non seulement. Et ensuite le cinquième point. Non seulement les gens de ce livre sont quelconques, mais les prédicateurs sont démodés. Et j'aurais pu penser à plusieurs mots pour cela. Démodés. Arrivé au chapitre 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Et ça, c'était un problème puisqu'ils aimaient ce style ésotérique ou fantaisiste. Compliqué, un enseignement labyrinthique qui fait appel à tout genre de complexité, de profondeur et qui stimule leur intelligence. Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, pas de passe-passe de sagesse. Je suis déterminé à ne connaître parmi vous rien d'autre que Christ et Jésus-Christ ressuscité. Une fois encore, ce message repoussant, incroyable, simpliste. Par ailleurs, il n'a pas du tout amélioré son cas par son propre personnage. Vous vous souvenez que les Corinthiens ont dit de lui que sa personne était franchement méprisable. Et son discours impressionnait peu. Il était avec vous dans la faiblesse, la peur, tout tremblant. Mon message, ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que vous ayez une vision assez complète des raisons qui font que les gens ne croient pas. Vous commencez par le fait qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils sont dépourvus de la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas échapper au naturel, ils ne peuvent pas s'empêcher de vivre dans la chair. Et quelqu'un qui est dans la chair ne se soucie pas. Et il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Elles sont incompréhensibles. Vous ajoutez le fait que cela donne des raisons de rejeter. Et vous comprenez quelque chose au dilemme du non-régénéré. Le message lui-même était offensant, déraisonnable, incroyable, incompréhensible. Le peuple était constitué de gens de condition modeste, et les prédicateurs étaient des faibles, des personnes qui impressionnent peu, des gens craintifs et tremblants. Et vous ajoutez l'état de déchéance, les ténèbres naturelles, l'aveuglement satanique et le jugement divin. Et les non-croyants ne peuvent pas, d'eux-mêmes, croire en la vérité. Ainsi, la quête de Dieu, la recherche du Christ, la recherche de la vérité et la tentative de discerner si la Bible est réellement vraie, dans ce qu'elle dit, ne peut pas commencer et se terminer avec le raisonnement humain. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous voyez un de ces documentaires, à la télévision, la quête du véritable Jésus, la recherche de la vérité, cela se termine toujours dans l'erreur. Une pensée déchue ne peut pas y parvenir d'elle-même. C'est pour cette raison que les non-chrétiens ne croient pas dans la Bible. Posons à présent la seconde question. Pourquoi est-ce que les chrétiens croient en la Bible ? En dépit de tout cela, allez au verset 6 et au chapitre 2. Nous allons passer quelques minutes dans cette dernière partie. Cependant, il s'agit ici d'un mot-clé. Vous devez l'encercler ou le souligner. Cependant, en dépit de ce que le monde pense à ce sujet, pluriel. Nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont téléios, téléiosis. En fait, au pluriel. Parmi ceux qui sont téléios, téléios, téléiois. En fait, au pluriel. Parmi ceux qui sont téléios, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ceux qui ont été rendus complets. C'est tout simplement une manière de décrire les croyants. Nous déclarons la sagesse saisie, comprise, embrassée et crue parmi ceux qui ont été rendus complets. Nous sommes venus à Christ. Nous sommes venus à lui. Nous sommes venus à celui en qui, Paul dit aux Colossiens, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul dit aux Colossiens, ce n'est pas que nous soyons plus intelligents, ce n'est pas que nous soyons ce n'est pas que nous soyons plus intelligents. Ce n'est pas que de plus grandes preuves nous aient été présentées. C'est que nous avons été rendus parfaits en lui. Paul dit, vous êtes complets en lui. Étant donc rendus complets ou matures en lui, vous avez reçu le don de cette œuvre divine qu'est la régénération, la conversion et la transformation. Pas seulement la confiance en Jésus-Christ et la confiance dans le Dieu vrai et aimant, le Dieu vivant, mais la confiance en la parole de Dieu. Et ainsi, le verset 6 dit, je le lis, « Nous enseignons une sagesse. » Paul dit « nous » dans un pluriel apostolique. « Cependant aussi, nous enseignons une sagesse. » Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle « sagesse dans ce monde », ni de la sagesse des grands de ce monde. Ceci est une sagesse que je viens de vous dire. Et cette sagesse dont je viens de parler est inconnue des meilleurs esprits de ce monde, des plus grands des dirigeants de ce monde. Nous prêchons, verset 7, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Par quel miracle sommes-nous parvenus à la connaître? Oh, lisez le reste de la ligne. Que Dieu, quel est ce mot qui suit, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Pourquoi est-ce que je comprends la Bible? Parce que Dieu a quoi? Dieu m'a prédestiné à la comprendre pour ma gloire future. Vous dites, oh, vous croyez en la prédestination. Je crois en la Bible. Et la Bible me dit que la raison pour laquelle je comprends la sagesse de Dieu, c'est parce que Dieu m'a prédestiné à la gloire éternelle et à travers la régénération et la conversion m'a donné la foi en son Fils, la foi en l'Évangile et en sa parole. Cela signifie-t-il que je suis désormais dans une situation où je crois la Bible, bien qu'elle ne soit pas raisonnable? Oh non! Tout ce qui s'y trouve est raisonnable. Ces prophéties se sont accomplies, ces miracles sont vrais et attestés, elle est scientifiquement sans défaut et exacte. Son histoire et son archéologie sont vérifiables au plus petit détail près. Mais ce n'est pas cela qui convainc ma raison naturelle. C'est parce que Dieu m'a donné la foi en sa parole que je vois maintenant que tout cela est vrai. Une autre manière de voir cela, à ce niveau, serait de regarder 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, juste pour vous faire comprendre une petite pause du texte sur lequel nous sommes. Parfois, les gens traînent à l'église pendant un moment et n'y restent pas. Le verset 19 les décrit. « Ils sont sortis du milieu de vous. » Et ceci est assez vrai. Dans pratiquement l'expérience religieuse de tout le monde, l'expérience chrétienne, ils sont sortis du milieu de nous. Oui, vous savez, telle ou telle personne avait l'habitude de venir ici. Il ou elle chantait à la chorale, servait ici et là-bas, venait à l'église. On ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis, ils sont partis, et cela prouve qu'ils n'ont jamais réellement été des nôtres depuis le départ. Pour vous, au verset 20, j'aime ça, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez ce qu'il dit dans le verset qui suit. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ceci signifie qu'aucun mensonge ne vous égare, aucun mensonge ne vous conduit dans l'apostasie. Pourquoi vous connaissez la vérité? Pourquoi connaissez-vous la vérité? Vous avez une onction qui vient de Dieu. Et quelle est cette onction? Ou mieux, qui est cette onction? Le Saint-Esprit. Je crois en la Bible parce que Dieu m'a donné la confiance en la parole de Dieu, comme partie intégrante de mon salut et de ma régénération. Je reste avec la vérité. Je crois la vérité. J'embrasse la vérité. Je continue avec la vérité. Je reste en lien avec la vérité parce que le Saint-Esprit de Dieu m'a montré ce qu'est la vérité, et je reconnais un mensonge quand je le vois. » À la fin de cela, ou vers la fin de ce même chapitre, au verset 27, il est écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Waouh ! Ceci est notre sécurité, le Saint-Esprit qui réside en permanence au-dedans de nous, qui est l'encre qui nous lie à la vérité. » Qui est l'encre qui nous lie à la vérité. Qui est l'encre qui nous lie à la vérité. Il demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme une onction. Qui est l'encre qui nous lie à la vérité. Il demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ceci est tout simplement un sujet profond à comprendre. Quand vous avez été sauvé, vous êtes parvenu à la confiance en la parole de Dieu. Et c'est là que vous restez. C'est là que vous demeurez. Et les personnes qui traînent là quelque temps et s'en vont ensuite prouvent le fait qu'elles n'ont jamais réellement été des nôtres et n'ont jamais eu l'Esprit de Dieu. Je crois en la Bible parce que Dieu m'a fait... Je crois en la Bible parce que Dieu m'a fait don de croire en son Fils. Il m'a fait le don de la foi, en son évangile et la foi en sa parole. Je continue pour ma justification. Je continue ceci pour ma justification. Je crois en la Bible pour ma sanctification parce que l'Esprit de Dieu qui demeure en moi continue de me conduire dans la vérité et loin de l'erreur. C'est pour cela que je crois la Bible. À présent, je comprends, comme le dit le verset 6, que ceci est différent de la sagesse de ce siècle, la sagesse des dirigeants de cet âge, les plus grandes pensées. Toutes ces choses sont catargeo. Tout cela est rendu inefficace. Tout cela est impuissant. Tout cela ne mène nulle part. Tout cela est véritablement de la folie, de la vraie folie. Mais je crois, et vous croyez parce que Dieu nous a prédestinés. Il a prévu avant les âges que nous croirions pour la gloire. Et nous croyons une sagesse, dit le verset 8, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il résume cela au verset 9 en disant ceci, un verset très familier, soit dit en passant, tiré de quelques passages auxquels on a fait allusion ici et dans Ésaïe. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Nous savons tout ce que Dieu a pour nous. Nous le savons. Nous le savons par révélation divine. Cela ne pourrait pas être connu d'une autre manière. L'œil ne peut pas le voir, et l'oreille ne peut pas l'entendre, et la pensée qui est en vue dans le cœur ne peut pas le concevoir. La vérité de Dieu, en ce qui concerne le salut, la vérité de Dieu au regard de la vie spirituelle et de la vie éternelle, n'a pas encore été entendue, n'a pas encore été vue, et n'a pas encore été conçue. Elle ne peut pas être connue par empirisme, elle ne peut pas être connue par rationalisme, elle ne peut être connue que par révélation divine. Dans Jean 8, Jésus dit ceci, et il s'adresse aux pharisiens récalcitrants. Jésus leur dit au verset 42 de Jean 8, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Waouh ! Mais, puisque Dieu n'est pas votre Père, vous ne m'aimez pas, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Écoutez ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous ne pouvez pas. » Et il le résume au verset 47, et bien au verset 46. « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi les gens ne croient-ils pas la vérité? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » C'est assez clair, n'est-ce pas? Qui croit la Bible? Ceux qui appartiennent à Dieu? C'est une œuvre divine. Retournez à 1 Corinthiens au chapitre 2. Et nous allons tout simplement conclure au verset 10 avec quelques commentaires. 1 Corinthiens 2, verset 10. C'est à nous. Oh, ceci est un si grand point de conclusion. C'est à nous que Dieu les a fait connaître. Les, que voulez-vous dire? Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, les choses qui concernent le salut, la spiritualité, la vie éternelle, le royaume. C'est-à-dire toute la sagesse de Dieu, toute la parole de la croix, toute la parole du témoignage divin, toute cette vérité qui est écrite. C'est à nous que Dieu a révélé cela par l'Esprit. C'est la chose cruciale à comprendre. Nous croyons parce que Dieu a choisi. Dieu nous a prédestinés à connaître afin que nous parvenions un jour à la gloire éternelle. En tirant ceci vers une sorte de conclusion qui agrippera votre âme, prenons tout simplement cette idée selon laquelle nous savons parce que Dieu a choisi de nous montrer, de nous révéler, de nous régénérer, de nous donner la vie, d'ôter les écailles d'aveuglement, de réveiller nos cœurs, de dévoiler les mystères, de faire sortir la vérité qui était cachée et de nous la révéler. Prenez cela comme un arrière-plan et relisez à partir du verset 24 de 1 Corinthiens 1 pour ceux qui sont appelés. Chaque fois que vous verrez cette expression « ceux qui sont appelés » ou « appellent » dans les épîtres du Nouveau Testament, il s'agit de l'appel effectif au salut. Nous sommes les appelés, c'est-à-dire ceux qui sont appelés des ténèbres à la lumière, appelés de la mort à la vie. Au verset 26, il dit encore « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel, l'appel divin, la vivification, l'appel qui donne la vie, la régénération. Et pourquoi vous ? Verset 27. Dieu a choisi, Dieu a choisi. Verset 28. Dieu a choisi. Verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Pourquoi êtes-vous en Jésus-Christ ? Parce que vous avez vu de quelle manière claire cela doit être appréhendé et cru, parce que vous êtes passé par des preuves, parce que votre intelligence s'est élevée jusque-là. Vous êtes en Christ, Jésus, grâce à lui. Il a prédestiné, il a révélé parce que il a choisi. Et celui qui l'a choisi, il l'a appelé. Et comme dit Paul dans Romains 8, « Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ainsi, en retournant au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous croyez, c'est grâce à lui que vous embrassez la parole de Dieu dans votre justification et votre sanctification. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Écoutez, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse? C'est par son œuvre que nous sommes en Christ. Et ensuite, Christ est devenu pour nous, par sa présence et sa puissance et son esprit et sa parole, sagesse de Dieu et justice et sanctification et rédemption. Pourquoi Dieu a-t-il fait ces choses de cette manière? Pourquoi Dieu a-t-il fait les choses de cette manière? Pourquoi Dieu a-t-il fait les choses de cette manière? Pourquoi Dieu l'a-t-il fait ainsi? Au verset 29. Afin que personne, quoi? Ne puisse faire le fier devant Dieu. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la liberté mette sa fierté dans le Seigneur. Et ainsi, nous sommes abasourdis par la confiance que nous avons à la parole de Dieu. Et quand quelqu'un dit « D'où cela peut-il bien venir ?» Vous pouvez répondre que c'est par son œuvre, parce qu'il nous a placés en Christ et Christ est devenu pour nous la sagesse de Dieu. Et c'est notre amour pour Dieu à travers Christ qui nous donne confiance en sa parole et nous croyons la vérité parce que nous sommes de Dieu. Martin Luther le dit de cette manière. Je le cite. « L'homme est semblable à une statue de sel. » L'homme est semblable à une statue de sel comme la femme de Lot, oui, une grume, une pierre, comme une statue sans vie qui ne se sert ni de des yeux, qui ne se sert ni des yeux, ni de la bouche, ni d'aucun sens, ni du cœur, jusqu'à qu'elle soit illuminée, convertie, régénérée par le Saint-Esprit. Je ne l'ai donc pas inventé. Il lisait la même Bible que je lis, et la même que vous lisez. Vous croyez en la Bible, très cher ou très chère. Mes chers amis, et vous vivez dans la lumière de ces glorieuses vérités. Votre vie est ravie par ces merveilles, parce que Dieu, pour sa propre gloire, a voulu nous prédestiner et vous choisir. Et vous justifier et vous sanctifier à travers sa parole. Et lorsqu'il vous a donné Christ, il vous a donné en Christ sa sagesse, parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Je ne peux pas séparer mon amour pour Christ de mon amour pour la parole. À la fin, en sautant jusqu'au verset 16, la dernière affirmation, nous avons la pensée de Christ. Quelle déclaration, quelle affirmation! En ayant confiance en la parole de Dieu, nous avons accès à la pensée du Christ. Vous saisissez? Le mode de pensée de Dieu et ce qu'il désire n'est pas un mystère pour moi. Tout ce que Dieu veut que je sache, il le met ici. J'ai ici la pensée de Christ et je sais comment Christ pense et ce qu'il veut et ce qui lui plaît et ce qu'il aime et ce qu'il déteste et ce qu'il commande et ce qu'il interdit. Je comprends tout cela parce qu'il m'a rendu capable de le comprendre. Et je vis ma vie en embrassant la merveille d'une grâce si profonde et inexplicable envers moi, comme c'est le cas. Baissons-nous dans la prière. Père, nous savons que la puissance de l'évangélisation en vue de la justification ne se trouve pas dans des méthodes habiles, ni dans la musique ou les divertissements culturellement forgés, mais plutôt dans la Bible. La puissance pour l'édification dans la sanctification se trouve également dans la Bible. Nous devons prêcher les Écritures, la parole de la croix, la sagesse de Dieu, le témoignage de Dieu. Nous devons le présenter, le proclamer, le défendre, car ceci est le seul espoir et le seul moyen par lequel tu justifies et sanctifies ton peuple. Nous devons toujours utiliser l'Écriture, non pas pour que les non-chrétiens voient son caractère raisonnable, mais pour que tu puisses de toi-même éveiller le cœur par leur miracle divin. Nous te disons merci, Père, de ce qu'une vie d'étude démontrera que l'Écriture est raisonnable, qu'elle est accessible, compréhensible, croyable, résiste à tous les tests. Et nous savons cela parce que tu nous as donné la vie et la compréhension. Nous te remercions d'avoir rendu la prière du psaume 119 au verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, cette prière a été exaucée pour nous, et nous te louons, et les merveilles ne sont pas à leur terme. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments dans la proclamation de la vérité pour réveiller les pécheurs et sanctifier les saints. Merci pour le privilège d'être ainsi utilisé au nom du Christ. Amen. Et il s'adresse aux pharisiens récalcitrants. Il a été également ramené à ma mémoire, ce n'est qu'à ce moment, de consigner sa vérité. Quoi qu'il en soit cependant, impossible, crucifié. C'est pour cela, ceci est une sagesse que je viens de parler, qui est inconnue des meilleurs esprits de ce monde dont je viens de parler, et qui ne sont point, et pourquoi nous? Il les a aussi justifiés. Parce qu'il nous a, jusqu'à ce qu'elles soient, car ceci est le seul espoir et le seul moyen, mais pour que tu puisses de toi-même éveiller le cœur par le miracle divin de la grâce à travers la parole. Nous te disons merci, Père, de ce qu'une vie d'étude démontre que l'Écriture est raisonnable. Nous te disons merci, Père, de ce qu'une vie d'étude démontre que l'Écriture est raisonnable. Elle est accessible, compréhensible, incroyable, résiste à tous les tests. Croyable, cette prière a été exaucée pour nous. Et nous te louons, et les merveilles ne sont pas à leur terme. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments dans la proclamation de ta vérité, pour réveiller les pécheurs et sanctifier les saints. Merci pour le privilège d'être ainsi utilisé au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.